I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all. My song is so, so small. My song is so, so small.
Merci d'écouter RFI, les 6h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour Gaëtan Plenaire.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
L'Iran n'avait pas relancé ses activités d'enrichissement nucléaire depuis juin dernier.
C'est la directrice du renseignement américain qui le dit et qui prend ainsi le contre-pied de Donald Trump qui se servait de cet argument pour justifier la guerre en Iran. Une guerre qui se poursuit et hier les Israéliens ont attaqué South Pars, le plus grand champ gazier au monde à cheval entre les eaux d'Iran et du Qatar. Cette guerre, elle a tendance à en cacher une autre, celle en Ukraine. Elle sera quand même à l'agenda d'un sommet européen à Bruxelles ce jeudi et on s'attend à un nouveau bras de fer entre Kiev et la Hongrie. On va vous expliquer pourquoi. Dans ce journal, vous entendrez aussi la colère des Sénégalais qui ne se remettent pas de la décision de la CAF de leur retirer leur titre en Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on terminera en musique avec le nouvel album du groupe Touareg Tinariwen, une sorte de retour en source, vous l'entendrez.
Voilà qui ne devrait pas plaire à Donald Trump.
Le président américain n'est pas du genre à aimer être contredit. C'est pourtant bien ce qu'a fait hier la directrice du renseignement national et devant le Congrès, en plus, qui l'auditionnait sur les différentes menaces internes et externes pesant sur les États-Unis. Forcément, il a été question d'Iran et poussé dans ses retranchements par les élus démocrates, Tulsi Gabbard n'a pas pu dire le contraire. Non, l'Iran n'a pas essayé de relancer ses activités d'enrichissement nucléaire après les frappes de juin dernier. C'était pourtant ce qu'affirmait la Maison-Blanche, correspondance à Washington de Vincent Souriau.
Tulsi Gabbard l'a souligné dès son propos liminaire. Oui, le régime iranien est touché, mais il n'a pas disparu.
La communauté du renseignement estime que le régime en Iran semble toujours intact, mais largement diminué en raison des attaques qui ont visé ses dirigeants et ses moyens militaires. Même si le régime demeure intact, la communauté du renseignement estime que les tensions internes vont sans doute empirer à mesure que l'état de l'économie iranienne s'aggrave.
Ensuite, la directrice du renseignement national passe un mauvais moment lorsque le sénateur démocrate John Ossoff la place face à ses contradictions.
L'analyse de la communauté du renseignement, c'est bien que le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran a été annihilé par les frappes de l'été dernier. La communauté du renseignement a-t-elle estimé, comme l'a prétendu la Maison-Blanche le 1er mars, qu'il y avait, je cite, une menace nucléaire imminente de la part du régime iranien ? Oui ou non ?
Sénateur, la seule personne qui peut déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente est le président.
Esquive polie de cette cadre du renseignement dont les analyses ont déjà été désavouées à plusieurs reprises et en public par Donald Trump. Vincent Souriau, Washington RFI.
Donald Trump qui n'a pas encore réagi à cette audition, mais qui l'a fait par contre après les dégâts provoqués hier par des missiles iraniens sur un site gazier situé au Qatar.
Si ça se produit à nouveau, alors South Pars sera sera entièrement détruit, promet le président américain. Safpars, c'est le plus grand champ gazier au monde, à cheval entre les eaux d'Iran et du Qatar, et il a lui-même été la cible d'une frappe israélienne hier. Donald Trump affirme qu'il n'était pas au courant que ça allait arriver. Quelques heures plus tôt, par contre, ce sont visiblement des bombardements israélo-américains qui ont visé des infrastructures énergétiques à Kangan, dans le sud iranien, des infrastructures qui permettent justement l'exploitation du champ de Safpars. Et ça commence à inquiéter sérieusement les monarchies du Golfe, Guilhem Deltey.
Le premier à réagir fut le Qatar, qui exploite le champ gazier avec l'Iran. L'attaque visant les installations iraniennes est une démarche dangereuse et irresponsable, a écrit le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Un danger souligné aussi quelques heures plus tard par la diplomatie émirienne, qui relève également une menace directe pour la sécurité énergétique mondiale et dénonce un bombardement aux graves répercussions environnementales. En près de 3 semaines de guerre, les monarchies du Golfe ont constaté que leurs infrastructures énergétiques sont des cibles pour Téhéran. Et les bombardements d'installations iraniennes offrent un argument à la République islamique pour multiplier ses attaques sur les infrastructures de ses voisins. Samedi dernier, après des bombardements américains visant l'île de Karg, principal port d'exportation du pétrole de l'Iran, Téhéran avait menacé de s'en prendre en représailles aux installations pétrolières des compagnies coopérant avec les États-Unis. Ces communications des pays arabes du Golfe soulignent leur inquiétude, mais surtout leur réprobation de ces frappes. Dans son communiqué, le Qatar accuse nommément Israël d'être responsable du bombardement de ce mercredi, une critique frontale du pays dont l'action au Moyen-Orient est jugée de plus en plus sévèrement par les monarchies du Golfe.
Et autre monarchie régulièrement visée par l'Iran depuis le début de la guerre, l'Arabie Saoudite, dont le ton monte. Le ministre saoudien des Affaires étrangères affirme que son pays se réserve le droit de répliquer militairement si cela s'avérait nécessaire. Un groupe armé irakien fait lui un petit peu le contraire. Les brigades du Hezbollah, favorables au régime de Téhéran, s'engagent, elles, à cesser pendant 5 jours leur frappe contre l'ambassade américaine à Bagdad, mais avec des conditions quand même. Les bombardements israéliens sur la banlieue de la capitale libanaise Beyrouth doivent eux aussi cesser. Même chose pour les frappes sur les zones résidentielles à Bagdad, ainsi que dans les provinces irakiennes.
Et c'est vrai que l'Irak se retrouve ces dernières semaines quelque peu pris en étau entre ses deux alliés.
Washington d'un côté, Téhéran de l'autre. L'Irak avait pourtant jusqu'ici réussi à maintenir un certain équilibre, Oriane Verdier.
Même durant la guerre des 12 jours en juin dernier, les groupes armés chiites pro-iraniens en Irak étaient restés à l'écart. Au sortir de la guerre contre l'organisation État islamique, la dynamique globale était celle de la reconstruction du pays. Mais aujourd'hui, tout a basculé, explique le spécialiste de l'Irak, Robin Beaumont.
On est sur un moment de remise en cause de plus d'une décennie d'efforts de normalisation de ces groupes au sein de l'État irakien. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont davantage que par le passé en mode survie. Ils avaient bien compris, notamment après la mort de Hassan Nasrallah au Liban, que s'ils voulaient survivre, il fallait peut-être se transformer et en tout cas provisoirement muter et davantage accentuer leur dimension politique. Aujourd'hui, on n'en est pas là, notamment parce que les pressions américaines pour leur démantèlement et la guerre leur laissent entrevoir la possibilité qu'ils se fassent complètement annihiler. Et du coup, ces groupes ont de moins en moins à perdre et s'engagent de façon beaucoup plus existentielle dans la guerre.
Il y a un mois, le président américain Donald Trump s'est personnellement opposé à la nomination au poste de premier ministre irakien de Nouri al-Maliki, étroitement lié aux groupes armés pro-iraniens. Ce conflit régional surprend donc un pays d'ores et déjà plongé dans une crise politique.
La précision d'Oriane Verdier.
La guerre, on le disait, bouleverse les équilibres en Irak. Elle bouleverse aussi l'agenda de l'Union européenne,
dont les 27 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent tout à l'heure à Bruxelles pour leur sommet de printemps. Il était censé porter sur l'économie et la compétitivité, mais l'Iran est passé par là. Alors ça donne un ordre du jour un petit peu sans dessus-dessous, avec la sécurité au Proche et au Moyen-Orient, l'énergie, mais aussi l'Ukraine. L'Ukraine pour qui ce nouveau conflit est une sorte de double peine. Non seulement il éclipse celui en cours dans le pays avec la Russie, mais en plus, la crise énergétique qui en découle donne de nouveaux prétextes à ses adversaires au sein de l'UE. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
Depuis le bombardement de l'oléoduc Droujba par les forces russes fin janvier, la Hongrie et la Slovaquie n'ont plus de livraison de pétrole russe. Les deux pays ont écarté d'un revers de manche la proposition croate de livraison de pétrole par l'oléoduc Adria, car ces deux pays veulent continuer à profiter du pétrole russe à bas prix. Slovaques et Hongrois ont été exemptés du sevrage européen des hydrocarbures russes et ils en font désormais un argument pour mettre l'Ukraine au pied du mur. La stratégie portée par le Hongrois Viktor Orban revient à contraindre l'Ukraine à réparer l'oléoduc Droujba, faute de quoi le prêt de 90 milliards d'euros promis à Kiev en décembre ne sera pas avalisé, puisqu'il faut l'unanimité des 27. Viktor Orban utilise ce bras de fer pour tenter de remonter au score en vue des législatives du 12 avril en Hongrie, et ses partenaires européens ne cachent pas leur fureur et leur impuissance devant son reniement de l'accord donné en décembre à ce prêt. L'Union a même contraint l'Ukraine à accepter une mission d'inspection de l'oléoduc. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et ce bilan annoncé par les Russes, un mort et deux blessés cette nuit après une attaque attribuée à l'Ukraine à Sébastopol, un important port de Crimée annexé par Moscou en 2014. Les autorités russes disent avoir abattu 27 drones.
Aucun pays africain ne bénéficiera d'un traitement plus favorable qu'un autre, la mise au clair du président de la CAF.
Et Patrice Motsepe qui l'affirme, chacune des 54 nations africaines a le droit de faire appel. C'est ce que compte justement faire le Sénégal après que le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré au Lion de la Teranga leur sacre en Coupe d'Afrique des Nations, conséquence des incidents qui avaient émaillé la finale. Les Marocains sont titrés à leur place. Hier, le gouvernement sénégalais a exprimé sa vive consternation, jugeant la décision illégale et réclamant l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçon de corruption. Dans les rues de Dakar aussi, en bout de colère. Reportage de Léalisa Vesteroff.
La boutique de maillots de foot près de l'université est encore vide, mais ici, aucune décision de la CAF ne fera disparaître la deuxième étoile fraîchement ajoutée au maillot vert ou blanc du Sénégal, comme l'explique Mbaké, son propriétaire.
On ne va pas les enlever, jamais. Les deux étoiles sont déjà gravées sur les maillots, donc il faut qu'ils arrêtent leur magouille, là, quoi, parce que le Sénégal a déjà gagné, on a déjà fêté, et on n'est pas prêt à rendre le trophée, quoi. On n'est pas prêt.
Déterminé, à l'image du Sénégal qui demande au tribunal arbitral du sport de rétablir le pays dans ses droits. C'est aussi le point de vue de Babacar, venu faire du sport, non loin de là.
Non, on ne laisse pas ça. On va aller jusqu'au bout. Hein. Ça ne se fait pas. On nous a laissé jouer. On a gagné. On nous a donné la coupe. Puis après, on nous a dit, on nous a éliminés. Ah ça, on ne laisse pas ça.
Plus philosophe, ces lycéens s'amusent avec humour de l'absurdité de la situation.
Nous, on a déjà célébré. Tout le peuple sénégalais a déjà célébré. Parce que nous, on a mérité cette victoire. Mais s'il veut nous, on peut leur donner la coupe, hein, parce que ça fait longtemps. 50 ans qu'ils n'ont pas vu la Coupe d'Afrique. On va les donner, ça va être grave. Parce que le monde entier a vu.
Hier, le gouvernement sénégalais a demandé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF, affichant sa volonté de voir son sacre continental réhabilité. Léalisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Le foot sans scandale, cette fois en tout cas pour l'instant. C'est aussi la Ligue des Champions, puisqu'on connaît, ça y est, les affiches des quarts de finale, dont les matchs allés commenceront le 7 avril. Et joli choc à venir entre le Real Madrid et le Bayern. Un duel espagnol aussi entre Barcelone et de l'Atlético Madrid, et puis le Sporting affrontera Arsenal, tandis que le Paris Saint-Germain devra se défaire de Liverpool. On aura évidemment l'occasion d'en reparler ce matin dans nos journaux des sports.
C'était déjà le nom d'un massif de montagnes qui borde Taman Rasset. C'est aussi maintenant le nom d'un album sorti il y a quelques jours.
Hogar, album signé à Tinari Wen, leur 10e, 2 ans seulement après leur précédent. Ils avaient visiblement encore des choses à dire et à chanter après 45 ans de carrière et de concerts à travers le monde, et le groupe en profite pour s'offrir un petit retour aux sources, Léa Boutin-Rivière.
Sur son album précédent, Tinari Wen matinait son blues touareg de sonorité country. Cette fois, le groupe signe un disque 100% tourné vers ses racines. Enregistré à Taman Rasset, Hogar laisse se déployer les guitares, les chœurs de femmes et les chants traînants, sans aucune concession à des accents venus d'ailleurs. Abdallah Agaloseni, l'un des membres fondateurs de Tinari Wen.
Ça n'a plus qu'une musique qui les touareg seulement qui les écoute. Ça commence à devenir une musique universelle. Mais nous, on voudrait toujours qu'on garde une attache de chez nous. Donc, cette année, on voulait franchement aller profondément dans les sources authentiques.
Les paroles des chansons aussi laissent transparaître ce mal du pays. Il faut dire qu'il n'y a pas de retour à la maison possible pour Tinari Wen. Le groupe a été chassé de sa région de l'Azawad, le nom que les Touaregs donnent au nord du Mali, par la situation sécuritaire. Plus encore que les précédents, ce disque chante donc l'errance, la perte de son foyer, et signe pourtant le retour à ce qui ressemble le plus un chez soi, la musique des origines.
Hogar, le dernier album de Tina Rewen. On en écoutera, je crois, Andréane, un petit peu plus juste avant le journal de 9h heure de Paris.
Et Willy Aboutin-Rivière viendra en studio nous en parler. On a hâte. Merci, Gaëtan Plenem. RFI matin 6h13 à Paris 5h13 en temps universel, jeudi 19 mars 2026. Ravi de vous retrouver avec toute la rédaction. On démarre ensemble notre tour du monde de l'actualité. Nouvelle journée de guerre au Moyen-Orient, des frappes encore toute la nuit et les infrastructures énergétiques sont particulièrement visées, les champs gaziers notamment en Iran, au Qatar, l'Iran, où on appellera notre correspondant à 8h pour faire un peu le point sur la situation. Siavosh Gazi nous emmène aussi ce matin dans le grand bazar de Téhéran où l'on s'inquiète d'un système économique à l'arrêt.
La situation est catastrophique. Après la guerre de 12 jours en juin dernier, il n'y a pas eu de retour à la stabilité. La situation est même devenue pire. Je crois que ça fait 25 jours qu'on n'a pas pu vendre de produits correctement. La guerre doit se terminer le plus vite possible, mais j'espère que cette fois-ci, elle se terminera bien, de sorte que les gens se sentent bien, parce que les gens ne vont pas bien du tout.
Reportage à écouter à 9h. L'économie israélienne, fragilisée aussi par cette guerre qui coûte cher, on en parle avec Frédéric Misselin dans notre dossier du 8h. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors pour parler de cette guerre, de ce qu'elle entraîne sur les marchés internationaux, de la guerre en Ukraine aussi qui continue et de l'attitude de l'Europe face à tout ça, votre invité à 7h20 est l'ancien commissaire européen Thierry Breton.
Oui, parce que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui, Conseil européen à Bruxelles. Alors l'Union européenne doit-elle dégager clairement une position commune sur la guerre au Moyen-Orient ? Quelle stratégie pour l'Union ? Quelle diplomatie ? Qui pour l'incarner ? L'Europe a-t-elle seulement son mot à dire dans cette région ? Thierry Breton s'inquiète d'un risque d'affaiblissement du continent.
Et Frangine, pourquoi tu te caches ? Fais pas la gueule. Donne-moi la main. Tous les deux, on va le faire. Il faut y aller. On va grandir. Prends tes affaires. Le monde entier y est passé. On n'est pas seul. Me regarde pas comme ça, avec tes yeux. Quand tu m'observes, et c'est trop dur de te dire non. Depuis toujours, on nous a chanté la chanson. On va pousser ensemble et on sera jamais vieux.
Encore un peu, encore quelques années ici. Je veux rester la gosse qui se cache en haut de l'arbre. Pour que jamais y ait mon nom sur une plaque de marbre. Rester blotti, garder encore les clés du nid. Comprends-moi, ne fais rien. Mon cœur appartient à l'enfance.
Comprends-moi, allez viens. Allez viens, on se lance.
Grandir c'est quoi? Grandir c'est quand moi je m'en fous. Ici c'est beau, pas sûr qu'après ce sera pareil.
Je te promets pas des monts, je te jure pas des merveilles. Des jours avec et des lendemains debout.
Laisse-moi.
Non, je t'en prie, me fais pas le coup de l'orpheline. Y'a bien trop de gens tout seuls pour y jouer à faire semblant. Des adultes de naissance chez qui l'enfant ça fait chou blanc. Allez, pose tes épines, frangine.
Comprends-moi, ne fais rien. Mon cœur appartient à l'enfance.
Comprends-moi, allez viens. Allez viens. On se lance. On se lance dans le palais des premières fois. Paraît que c'est chouette d'avoir une autre langue dans sa bouche. Je veux goûter aux doigts de l'amour qui me touche. Mettre du tabac dans nos clopes en chocolat.
Laisse-moi danser dans mes années. Je reste ici croquer quelques instants de rab. Je veux encore faire la course avec mon cartable.
Allez, Frangine, donne-moi la main. Viens, on leur montre. Qu'on va y croire au lendemain qui se sublime. Au lendemain, espoir qui se danse dans l'intime. Au lendemain, debout, fierté de nos débuts. Au lendemain, écrit au lendemain qui crie. On va danser dans nos années. Allez, danse. Oui, Frangine, danse. Au lendemain, confiance. Au lendemain, enfance.
Au lendemain, bêtise. Au lendemain, friandise.
Au lendemain, la suite. Au lendemain, qui milite.
Au lendemain, écrit. Au lendemain, qui crie. Qu'on se battra pour des jours qui inspirent. Qu'on écrira pour tous ceux qui respirent. Dans le sourire de nos matins qui se bonsoir. Au lendemain, y croire.
Allez, Frangine, donne-moi la main. Viens, on grandit. Viens, on y croit. Au lendemain.
Y croit. Au lendemain.
D'écrire des textes tristes, moi je plaque mes névroses en ligne pour qu'elles disparaissent comme Tetris. Me fait pleurer un tas de trucs, j'ai le trac et stress dans nos vices. Je tourne en rond derrière mon œil, elle traque le vice de nos vies. J'articule pour vos oreilles, mes penches comme de la synovie, dégoûte Israël comme le président Sarkozy. Artiste au sarcasme juvénile à la prose aphrodite, je me demande pourquoi les gens prennent encore le temps d'être polis. Pour ça, mes grands-parents, leurs souvenirs et leur vie, lourds et de sens des rictus, des personnes qu'on vieillit. Ça me donne l'envie de tailler avant que la vie file et me croque. L'envie de tirer après la vie d'un certain Phil Ken Crowe. Bref, un texte triste perd son charme s'il vient pathétique. N'oublie jamais que la mélancolie a pour être mille et potes. La vraie tristesse d'un homme n'a ni mot ni logique. Une larme sur une joue résume tous les mots de mon bloc. C'est pas que j'insiste, mais tant que le piano râle au micro, je vis l'oral et fonce. Donc je foque les panneaux stop, même la meurtrie. Au plus profond de moi-même, tu verras que dalle. À part peut-être la laine usée d'un bon vieux scotch, j'aime. Parce qu'il tourne donc comme le DJ, je le scratch. Et le crossfader décide de la cadence des mots que je crache. Je crois qu'on est là par hasard, tous en train de parader. Pendant que sur terre on se fait la guerre à défendre son paradis. Y'a pas assez de mots pour vous dire à quel point j'aime écrire. Ça m'énerve, m'élève, me cultive et bouge mes lèvres. Si au mic n'était pas vrai, m'aurait déjà dit arrête de mentir. Je me suis jamais cru une autre place que l'élève. Même si souvent je m'énerve, que m'exprimer cultive mes nerfs. Je n'y vois qu'un exutoire, l'étincelle dans l'œil d'un clochard qui trouve à boire. Ville de béton comme perso, naquit un rap comme personne. Donc perso, si ma voix tremble, c'est l'émotion quand j'actionne. Un verre de plus, un soir d'hiver. Ici c'est comme ça qu'on hiberne. Le miroir dont jette nos gueules d'ivoire. Le rap, mon poutine ball, mon exutoire, mon sac à cauchemar. Le seul qu'encaisse mes punchlines, ma lampe torche dans le noir. Je m'entorche de ce qu'ils en pensent et de ce qu'ils comptent en faire. Les gens qui n'aimaient pas ma sale tronche maintenant se touchent sur mes verres. Et ouais mec, je suis triste, mais tant que l'instru pleure, me demande pas conseil, l'artiste est sur répondeur. Tout comme ma musique, celle qui me connaît par cœur. Un père qui parle à son fils, là on peut parler de créateur. Tout comme ma musique, celle qui me connaît par cœur. Un père qui parle à son fils, là on peut parler de créateur. Tout comme ma musique, celle qui me connaît par cœur. Un père qui parle à son fils, là on peut parler de créateur. Tout comme ma musique, celle qui me connaît par cœur. Un père qui parle à son fils, là on peut parler de créateur.